Radio Okapi. Okapi.
Encore une crise à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Le parti cher à Jean-Claude Baïndé manifestait contre la motion de défiance introduite vendredi à l'Assemblée provinciale contre ce gouverneur de l'Équateur. Le ministre de l'Intérieur est descendu sur place pour décanter la situation. Le dialogue de Kampala est carrément sans espoir. C'est l'avis des populations de Goma, une semaine après le début des pourparlers entre le M23 et le gouvernement congolais dans la capitale ougandaise. Et puis, la population qui se déplace par pirogue, les enfants qui jouent avec des flaques d'eau et les femmes qui font la cuisine sur la route, cela se passe au quartier Ndanou, commune de Limété ici à Kinshasa, motif inondation depuis 5 jours dans ce quartier. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisi. Ce journal part de l'Équateur où séjourne depuis hier à Mbandaka. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyege, est allé s'enquérir des tensions et actes de vandalisme ce week-end. Des militants du parti politique Alliance des démocrates humanistes, ADH, ont manifesté contre la motion de défiance introduite vendredi à l'Assemblée provinciale contre le gouverneur Jean-Claude Baïndé. Certains députés ont été blessés et admis à l'hôpital et leurs maisons saccagées. Le bureau de la représentation provinciale dénonce la passivité de la police face à ces actes de vandalisme et d'agression. Louis Manzomba, rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, joint par Radio Capi.
Au niveau de l'Assemblée provinciale, nous trouvons qu'il y a une complicité manifeste. Parce que vous pouvez vous rendre compte que le couloir a son parti dans une radio de la place, pour promettre ce qui s'est passé durant toute la journée de samedi, et ça a commencé tôt le matin, et jusqu'à 17h, vous sentez que le comité local de sécurité n'a rien fait. Et au contraire, nous enregistrons des cartes, des saccages, je dirais 3 députés blessés, qui se trouvent pour le moment dans des formations médicales, 3 maisons saccagées, il y a la maison de Ganga Kelo qui a été brûlée, la maison de l'honorable Samuel Toko qui a été saccagée, ainsi que la maison de l'honorable Nipiri qui a été complètement pillée. Donc nous sommes abandonnés à notre triste sort, et avec une grande complicité de la police de la place.
Aucune autorité de la police n'a été joignable pour réagir à ces accusations de passivité. Rendons-nous à Kampala, où se tiennent des pourparlers M23 et gouvernement congolais. Une nouvelle séance plénière est attendue aujourd'hui après l'annulation de la séance de samedi. Ce week-end, le médiateur ougandais a continué ses consultations avec les deux parties en vue d'élaborer l'ordre du jour et le règlement d'ordre intérieur des pourparlers. Une semaine après le début de ce dialogue, plusieurs habitants interrogés pensent que les choses n'avancent pas. Écoutez ces propos recueillis dans les rues de Goma.
Je n'ai pas d'espoir. Le motif que le M23 est en train de présenter comme soubassement de leur guerre, c'est un motif qui est non fondé. D'abord parce qu'ils disaient les accords du 23 mars. Quand ils arrivent là, ils réclament l'administration de la ville de Goma et ailleurs. On constate que c'est une consommation d'argent inutile du pays.
En ce qui nous concerne, nous n'avons rien comme espoir. Parce que depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas encore commencé normalement les négociations proprement dites. C'est pourquoi nous ne croyons à rien.
Pour le pourparler de Kampala, on ne peut pas bien espérer parce que même si on le fait aujourd'hui, demain aussi on ne peut pas le faire. On ne peut pas négocier tout simplement chaque jour dans notre république. Il faut former bien les militaires et bien encadrer la population. Puisque si tu encadres la population avec les militaires, il y aura une bonne cohésion. On va à Kampala. Comment on peut trouver la résolution là où ils se trouvent les agressés?
Et en rapport avec la guerre dans l'Est du Congo, le chef de l'État Joseph Kabila invite les parlementaires à sensibiliser les jeunes à intégrer l'armée nationale. C'était au cours de son discours sur l'état de la nation samedi au Parlement. Depuis le mois d'août dernier, se déroule à travers le pays une opération de recrutement par l'état-major général des FARDC pour rajeunir l'armée congolaise. À ce jour, quel bilan fait-on de cette opération? Le porte-parole du gouvernement congolais précise que plusieurs centres de formation accueille des nombreux jeunes volontaires à travers les provinces. Lambert Mende au micro de Jeff Ngoy.
Le gouvernement, le président et l'état-major général n'ont pas lancé une conscription générale de tous les jeunes. Il y en a des dizaines de millions qui sont éligibles, comme vous dites. Nous lançons un appel à un enrôlement volontaire. Et si nous avons 40 000, 50 000, 60 000 jeunes sur les dizaines de millions qui sont éligibles, ça répond aux besoins qui sont les nôtres. Donc, ce n'est pas un débat sur le fait est-ce qu'il faut aller à l'armée ou pas aller à l'armée. C'est ceux qui veulent qui viennent. Et nous avons une réponse très positive. Et nous savons aussi que nous ne sommes pas une société unanimiste. Il ne suffit pas de battre la main pour que tout le monde vienne à l'armée. Et s'agissant de la situation sociale au sein de l'armée, sans vous donner des chiffres une fois de plus, je peux vous affirmer la main sur le cœur qu'il y a beaucoup d'autres catégories sociales qui sont moins bien loties qu'un jeune militaire qui entre aujourd'hui, qui est au bas de l'échelle et qui touche un montant beaucoup plus important que certaines catégories auxquelles vous êtes loin de penser.
L'Union européenne assiste la RDC dans la réforme sécuritaire. C'est ce qu'a affirmé ce week-end son ambassadeur en RDC en marge de la célébration du prix Nobel de la paix attribué ce mois-ci à cette organisation. D'après Jean-Michel Dumont, ce prix Nobel est une récompense pour les réalisations de l'Union européenne dans le passé. Ce diplomate a par ailleurs indiqué que son organisation apporte un soutien remarquable sur le plan humanitaire aux victimes de l'insécurité dans l'est du Congo. Jean-Michel Dumont au micro de Berry Lutchaka.
L'Union européenne, notamment à travers son bureau ECHO, est sans doute le premier donateur en matière d'aide humanitaire pour le Congo. Il y a quelques jours, face aux événements, nous avons décidé donc de consacrer 15 millions d'euros supplémentaires pour l'assistance aux populations donc, qui souffrent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et ceci portera à près de 80 millions d'euros, donc plus de 100 millions de dollars, l'aide qu'en 2012 nous avons apportée aux populations. Donc je crois vraiment que nous ne pouvons en aucun cas être accusés d'être passifs. Au contraire, nous sommes extrêmement réactifs et nous ne sommes pas les seuls parce que nos partenaires de l'Union européenne ont également mobilisé tous les fonds disponibles pour venir en aide aux populations. Je citerai la Grande-Bretagne qui vient de décider d'accorder près de 35 millions de dollars. Nous avons aussi l'Allemagne, la Suède, 2,8 millions d'euros, les Pays-Bas, 5,5 millions d'euros, la France, 2 millions d'euros. Donc c'est l'ensemble des pays membres de l'Union européenne qui se sont mobilisés pour venir en aide aux populations.
Direction le Katanga, près d'un mois après l'attaque de la localité de Ngoya, à plus ou moins 35 kilomètres de Mulongo, dans le territoire de Malimbankulu, la plupart des villageois n'y sont pas encore retournés. Les uns sont toujours réfugiés en brousse, d'autres sont à Mulongo et ses environs. L'administrateur du territoire de Malimbankulu, qui revient de Mulongo, annonce le déploiement dans cette chefferie des FARDC et des policiers. Ceux-ci devraient se rendre dans le village de Ngoya afin d'assurer la sécurité et permettre le retour des déplacés. Denise Maé au Moissy.
La société civile de Mulongo se réjouit de cette présence des FARDC. Pour son président, cela devrait rassurer les habitants du village de Ngoya, toujours en déplacement après l'attaque d'un groupe Mai Mai il y a quelques semaines. Jusque-là, ces déplacés dont leur nombre n'est pas connu vivent difficilement. Les uns sont toujours en brousse, les autres ont trouvé refuge à Mulongo et ses environs. Entre-temps, le président de la société civile dénonce le fait que des ONG basées à Lubumbashi sollicitent de l'aide auprès des ONG internationales et agences des Nations Unies en faveur de ces déplacés sans avoir mené une enquête sur terrain. Il craint que cette aide, une fois obtenue, n'atteigne les vrais bénéficiaires. Que dire Tikala?
Ce que nous craignons, ils n'ont pas la réalité sur terrain. Les ONG locales qui sont sur place, ils sont eux qui ont la réalité sur terrain. Il y avait encore d'autres personnes. Il était venu, toujours envoyé par la FAO, mettre des galops, mais le financement était utilisé pour l'achat de poissons.
De son côté, l'administrateur du territoire de Malimbankulu attend de se rendre personnellement en Ngoya, se rassurer du retour au calme, avant d'appeler les villageois à y retourner. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, le quartier Ndanou, proche de Kingabwa dans la commune de Limete, ici à Kinshasa, vit depuis 5 jours les affres d'inondations en cause le débordement de la rivière Njili. Conséquence, de nombreuses familles passent nuit à la Belle Étoile. Un reportage de Askenzib Gatayoro.
Une scène de désolation s'observe depuis jeudi dernier dans les quartiers Ndanou. Bon nombre de maisons sont inondées par les eaux de la rivière Ndjili. Plusieurs familles vivent dans une détresse indescriptible car tous leurs effets de la maison sont entassés dehors. Les enfants sont exposés aux intempéries, ils n'ont pas d'espace pour s'amuser. Certains d'entre eux trouvent même amusant de jouer dans les eaux stagnantes devant leur cour. Les habitants sont obligés même d'utiliser des pirogues, moyennant 100 francs congolais pour se déplacer d'un coin à un autre. Une victime s'en plaint.
Nous sommes envahis par les eaux, raison pour laquelle nous faisons la cuisine sur la route. Nos maisons sont abîmées par les ordures. Où doit-on maintenant aller? Nous sommes devenus comme des personnes sans domicile fixe.
Tout quartier Ndanou ne fait qu'attendre une assistance des autorités communales ou municipales. Entre-temps, les efforts déployés par le chef du quartier pour contenir cette catastrophe ne tiennent pas.
J'ai reçu des sacs, des pneus. Je suis allé jusqu'à l'office des routes pour avoir des carcasses de véhicules afin de lutter contre les inondations. Mais tous mes efforts avec les gens du quartier ne tiennent pas. On est fatigué.
Les habitants de Ndanou n'ont qu'un seul souci, que le gouvernement les aide à construire la vanne par où les eaux pénètrent souvent pour causer des drames dans ce quartier.
Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.